Vous écoutez France Culture. Aujourd'hui, Continent Science par Stéphane Delisgeorges.
Et oui, bien sûr, Continent Science pour ouvrir la semaine des sciences, tous les jours à 14h, et bien évidemment toujours aussi en direct du studio 167 de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous, notre sommaire aujourd'hui, le grand entretien avec Pierre Bérard, qui est mathématicien, et puis, nous ouvrirons aujourd'hui avec Raphaël Brio l'espace critique, mais tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens la loutre géante, Pteronura brasiliensis, d'une taille pouvant aller jusqu'à 1m80, son poids est de quelques 30 kg. Cette loutre géante est la plus grande des 13 espèces de loutres connues. Espèce menacée, malheureusement, elle se trouve exclusivement en Amérique du Sud. Avec une population estimée entre 1000 et 5000 individus, la loutre géante est classée espèce en danger par l'Union mondiale pour la nature et, bien sûr, se trouve en annexe 1 de la Convention de Washington, la CITES. Pourchassée de manière intensive pour sa fourrure jusque dans les années 70, elle doit maintenant faire face, comme beaucoup de ces animaux, à la déforestation qui modifie de façon alarmante son habitat naturel, ainsi qu'à la pollution des rivières sud-américaines résultant des activités minières de ces régions. Elle est aussi, malheureusement encore, la cible de pêcheurs locaux qui voient en elle une rivale. Cette loutre est joyeuse, cette loutre est très curieuse. Elle se nourrit essentiellement de poissons, et il faut noter, elle est très peu fréquente dans les parcs zoologiques. Les portées de loutres géantes ont un taux de survie extrêmement faible. Aussi, nous nous réjouissons, d'apprendre qu'au zoo de Douai-la-Fontaine, Madame Yukuna et Monsieur Diego ont donné naissance à deux petits. Ils sont nés après une soixantaine de jours de gestation et à peine âgés de 3 semaines, les yeux encore fermés. Ces loutrons ont commencé à être portés furtivement hors de leur niche par leurs parents avant d'être plongés quelques minutes dans l'eau de leur bassin. Cet apprentissage un peu rude, bien qu'habituel pour cette espèce, a permis aux animaliers de s'assurer ponctuellement et de loin de leur bonne santé. Mais ils sont trop petits, alors leur sexe n'a pu encore être déterminé. Ces loutrons atteindront leur maturité sexuelle à 9 mois et alors seront de vrais chasseurs vers 10 mois. Le succès d'une telle reproduction repose en grande partie sur le fait de laisser les parents élever tranquillement leurs petits dans les 2 premiers mois. Ainsi, depuis la naissance, les contacts de la petite famille avec les soigneurs et le vétérinaire du zoo de Douai-la-Fontaine sont bien sûr réduits au minimum. Reste, pour finir, bien sûr, à souhaiter longue vie à ces loutrons géants. Bonjour Pierre Bérard.
Bonjour Stéphane Delisgeorges.
Alors, pour tout dire, ce qui m'a donné l'idée de cette invitation que je vous ai lancée, c'est une lecture, la lecture d'un article que vous aviez fait pour la revue qui s'appelle Médecine Science, qui à l'ordinaire est plutôt une revue qui est centrée sur les questions de médecine, sur les questions de biologie fondamentale, et puis voilà que je tombe sur un article absolument passionnant, sous votre signature, et qui forme évidemment l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Grosso modo, est-ce que vous seriez d'accord pour que j'intitule ce rendez-vous « La production mathématicienne » et ses articles, et ses, voilà, la production mathématicienne à travers son écriture ou ses écritures?
Oui, tout à fait, la production, mais quelque part, c'est aussi le monde mathématique.
Oui. Et pourquoi ?
Alors, les mathématiques ont cela de particulier qu'elles ne reposent pas sur l'étude expérimentale d'un monde qui leur est extérieur.
Oui.
Comme la biologie, par exemple, peut étudier les mécanismes cellulaires jusqu'au comportement des êtres vivants comme la loutre géante. Le mathématicien réfléchit, il lit la littérature, il produit des nouvelles notions, des liens entre des objets qui existent déjà, et puis il décrit ces choses-là dans un nouvel article qui va s'ajouter à ce corpus mathématique. Alors le corpus mathématique, c'est ce que j'appelle le corpus mathématique, c'est l'ensemble des publications. Donc on peut très brièvement les classer. Il y a des articles dans des revues spécialisées, des actes de congrès, des monographies. Ces publications sont soumises à un comité de lecture. Et puis il y a des choses un petit peu moins formelles, comme par exemple les thèses qui sont évaluées par deux rapporteurs et qui sont soumises à l'aval de l'université qui délivre le diplôme, ou bien ce qu'on appelle communément depuis très longtemps des prépublications, c'est-à-dire des publications qui sont mises à la disposition de tous en espérant qu'on aura un retour, des commentaires, etc., avant de les soumettre dans une revue à l'évaluation des pairs.
Alors, quand vous parlez, en tout cas, plus particulièrement de ces revues, ce sont des revues à référer, elles sont un peu sur le modèle standard des revues académiques pour toutes les disciplines. Donc là, ces revues dites mathématiciennes, dont on confie, selon la spécialité, à deux référés qui connaissent bien le domaine et qui vont se prononcer sur l'intérêt, sur la validité d'un article proposé par un auteur, c'est bien ça?
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières revues étaient des revues généralistes, dans lesquelles on trouvait un petit peu toutes les sciences. Et puis, plus tard, sont nées des revues spécialisées, néanmoins, donc spécialisées en mathématiques. Il existe en mathématiques des revues spécialisées sur un sous-domaine, mais elles sont relativement peu nombreuses. Les mathématiciens tiennent à avoir des revues assez généralistes, essentiellement parce que la fertilisation croisée entre sous-domaines des mathématiques est extrêmement importante.
Donc, ce qui veut dire que dans ces revues qui sont donc avec un régime généraliste, on peut trouver de l'algèbre, on peut trouver de la théorie des nombres, on peut trouver, enfin bref, tous les sous-départements, si je puis dire, du grand monument des mathématiques universelles.
Tout à fait. Pas forcément. Les revues ne couvrent pas forcément l'ensemble du spectre, de l'éventail des mathématiques. Mais en général, les très bonnes revues couvrent un spectre assez large.
Alors vous dites que, peut-être que je vous reposerai cette question sous différentes formes, mais en tout cas, dès l'abord, dans cet article, vous disiez que le rôle de la littérature savante était, évidemment pour les mathématiciens pratiquants, était absolument crucial. Il faudrait souligner, le mettre en gras, ce mot.
Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que je disais au début. Mm-hmm. Les mathématiciens travaillent sur un matériau qui est justement l'ensemble de cette littérature, l'ensemble des notions, l'ensemble des relations entre les objets qu'ils ont créés. On se pose toujours la question de savoir si les mathématiques existaient avant qu'un mathématicien invente la notion. Non, mais on ne va pas rentrer dans ces détails.
Vous parlez du réalisme en mathématiques, là ?
Oui, c'est ça. Donc,
autre monde très étrange. Hein.
Alors, disons que, en tout cas, ces notions, elles existent dans la littérature mathématique.
Oui.
Les relations qui les lient existent dans la littérature mathématique. Et très souvent, les notions existent bien avant qu'on ne les définisse. Parce que il faut bien comprendre que le mathématicien ne se lève pas le matin en disant « Tiens, je vais appeler groupe un objet qui satisfait certaines propriétés. » En général, il a sous les yeux un certain nombre d'objets qui partagent des propriétés, et parce que ces objets apparaissent dans différentes situations, il juge utile de les mettre tous dans une même catégorie qu'on va appeler, par exemple, les groupes, puisque j'ai fait allusion à ces objets.
Avec un certain nombre de lois, d'ailleurs, qui les
avec
définissent.
Avec un certain nombre de lois qui les définissent.
Associativité, ainsi de suite.
Voilà, enfin, exactement.
Bref, d'accord. Alors, revenons un instant, si vous voulez le bien, Pierre Bérard, parce que c'est intéressant, sur un historique rapide de ces revues. Alors, dans les informations complémentaires à cet article que vous m'avez fait passer, vous dites que les premières revues scientifiques paraissent concomitamment à Londres, c'est la Philosophical Transaction of the Royal Society, et à Paris. Grosso modo, l'année, c'est 1665, c'est le journal des savants pour ce qui est de Paris.
Tout à fait, tout à fait. Donc je pense que jusque-là...
Milieu 17e, hein,
oui,
c'est pas
voilà.
Tout.
Donc
c'est
je pense d'hier, que jusque-là, il y avait des échanges de correspondances entre scientifiques, pas seulement entre mathématiciens, et des ouvrages. On peut citer en mathématiques les éléments d'Euclide, par exemple, qui sont évidemment très anciens. C'est 300 ans avant Jésus-Christ.
Eh oui, bien sûr.
Mais ensuite, disons que la population mathématique, peut-être, ou le nombre de résultats augmentant, peut-être aussi un souci de démocratisation, de faciliter la communication entre les scientifiques, a fait que des gens ont trouvé utile de créer des revues dans lesquelles seraient consignés les résultats. Et il y a derrière cette volonté quelque chose de plus profond, qui est quelque chose qui est aussi une volonté d'archivage, de faire en sorte que ces résultats qui sont obtenus puissent être passés aux générations suivantes sans être perdus au hasard du déménagement de tel ou tel auteur et de la disparition de sa correspondance, par
oui.
exemple.
Vous dites d'ailleurs, Pierre Bérard, que ce souci-là que vous pointez dès cette époque, c'est un souci qui n'a jamais cessé et qui, alors évidemment avec les technologies nouvelles, on le verra plus loin, plus tard, mais est encore très entier, est très important, la conservation et le passage, grosso modo le passage à ceux qui arrivent après.
Tout à fait. Alors, peut-être qu'on y reviendra, mais je dirais même qu'aujourd'hui, ce souci de l'archivage pérenne,
oui.
et quand je dis archivage pérenne, il ne s'agit pas seulement de garder dans une pièce obscure, il s'agit de garder des documents qu'on puisse aller lire. Donc c'est à la fois archivage et accès pérenne. Un certain nombre de personnes dont je fais partie pensent que cet archivage, cet accès pérenne sont actuellement en danger.
Uh-huh.
À cause de la transition vers l'électronique.
Oui.
Et c'est quelque chose, c'est un problème auquel nous sommes particulièrement attentifs.
C'est une de vos inquiétudes. Restons encore quelques instants sur cette histoire des revues consacrées donc aux mathématiques. Alors il y en a une qui est très célèbre, c'est le journal de l'École Polytechnique, revue scientifique française publiée par le Conseil d'instruction de l'École Polytechnique. Et qui paraîtra, là on voit qu'elle est quasi pérenne, en tout cas son temps de sa longévité est grande. Elle commence à paraître en 1794 et elle va se poursuivre jusqu'en 1939, donc au début de la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait, donc ça c'est une revue généraliste. Alors on peut dire qu'elle continue à vivre dans une certaine mesure, parce qu'elle était numérisée par la Bibliothèque nationale de France dans la collection Gallica, et que donc on peut encore la consulter aujourd'hui.
Alors il y a des grandes signatures, bien sûr, on n'est pas étonné de les retrouver. Cauchy, le baron, Coriolis, celui de la force.
Tout à fait.
La célèbre force, mais aussi celui qui a écrit un traité du billard, si je ne me trompe pas. On rencontre Malus, qui lui s'est plus tourné vers les questions concernant la lumière. Donc il y a pratiquement, on va dire, l'immense majorité des grands matheux ont écrit dans cette revue, on peut dire.
Tout à fait.
Français en tout cas, voire étrangers même.
Tout à fait, alors oui. Oui.
On peut d'ailleurs souligner que la langue était le français, alors, majoritairement parlé par les matheux de toute l'Europe par exemple.
Oui, alors la langue était le français, néanmoins il faut voir que quelqu'un comme Gauss, par exemple, écrivait en latin.
Oui.
Euler, Gauss ont écrit en latin.
Oui.
Ensuite, le latin a quelque peu disparu pour faire place à la langue naturelle, je dirais. L'allemand et le français ont été des langues très importantes. Et le français est resté une langue mathématique importante, en ce sens qu'il est toujours possible aujourd'hui, je connais, disons, très peu de revues, qui n'accepte pas les articles en français.
Ah,
alors oui. Néanmoins, il faut être réaliste, des statistiques tendent à montrer que les articles écrits en français sont moins cités que les articles écrits en anglais. On comprend évidemment pourquoi.
Oui. Alors, on dit, et je ne sais pas quelle sous-discipline c'est, mais que très longtemps même, le français s'est perpétué dans une certaine branche des mathématiques, au point que les spécialistes de ce sous-département, qui n'était pas francophone, apprenaient le français pour s'y mettre. Et puis on peut souligner aussi ce fait qu'au moment de la remise de la médaille Field à la Forgue, à Pékin, il a fait son discours en français. Mais c'est un de ses goûts, en tout cas, pour la langue française.
Oui, c'est vrai, je crois quand même que relativement beaucoup de mathématiciens français publient régulièrement en français. Pas toujours, mais publient régulièrement en français. Néanmoins, il est évident que dans les congrès, c'est en général quand même plus adapté de parler en anglais que de parler en français pour des raisons de communication internationale.
Alors on poursuit avec vous, Pierre Bérard, toujours sur France Culture. Cet questionnement sur la publication en mathématiques. Et là maintenant, je suis face à un tableau qu'on va gloser et qui est le suivant. Dans le nombre d'articles publiés, 1860-1946, 250 000. Oh là là, bon, mais c'est rien avec les chiffres à venir. 1947-1956, 63 000. 1957-1966, 120 000. Puis alors là, ça monte. Excusez-moi. 1967-1967, 243 000 pour passer à 335 000 dans la période 1977-86. Et enfin... Je laisse une des périodes, mais 1987 à 2006, ce sont 614 000 articles publiés. C'est effarant.
Oui, quelque part, c'est effarant. Bon, je pense qu'il y a différentes raisons à cela. Je crois que la communauté mathématique a numériquement augmenté dans monde.
Bien sûr.
Sans doute parce qu'il y a eu une démocratisation de l'enseignement supérieur, que l'enseignement supérieur s'adosse sur la recherche, que donc on a besoin de mathématiciens. Sans doute aussi parce que les mathématiques sont de plus en plus utilisées dans l'ensemble des sciences, aujourd'hui même en biologie,
voire en sciences humaines,
on ne coupe pas l'utilisation de mathématiques. Donc c'est sans doute une des raisons. Alors, une autre raison, c'est sans doute une certaine pression aussi autour de l'évaluation et de la nécessité de montrer qu'on publie. Donc c'est vrai qu'il y a une pression pour publier qui existait peut-être moins autrefois et qui fait qu'on a peut-être tendance à publier plus qu'il ne conviendrait de le faire. Mais il reste qu'il y a quand même un développement extrêmement important des mathématiques depuis, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, où j'avais noté, par exemple, que il y avait 15 revues qui contenaient des mathématiques autour de 1700. Et aujourd'hui, nos bases de données, nous avons deux bases de données qui dépouillent la littérature mathématique, dépouille de manière systématique 600 revues et de manière partielle 1500 revues. Parce qu'évidemment, il y a des mathématiques qui peuvent apparaître dans des revues de physique, dans des revues de biologie, etc.
Alors, il y a évidemment un certain nombre de questions qui sont pendantes après donc, ces relevés quantitatifs. Est-ce qu'on peut dire on va trouver dans la majorité de ces articles des théorèmes démontrés? Je pose les questions qui fâchent. Est-ce qu'on va trouver peut-être à part égale ou peut-être pas, à vous de nous le dire, Pierre Bérard, ce que vous appelez, vous, des conjectures, c'est-à-dire quelque chose qui est jeté d'une certaine manière en pâture à l'acuité des mathématiciens mais qui n'est encore pas démontré? Puisque si on les recense, les conjectures qui ont été fixées par le grand Hilbert n'ont pas toutes été démontrées, là encore. Donc ce sont des sortes de pierres d'attente, ces conjectures. Donc pour reprendre ma question, y a-t-il une sorte de recensement possible, des théorèmes démontrés, ce qui serait très impressionnant, et puis de ces pierres, de ces défis lancés que sont les conjectures?
Je dirais que d'une manière générale, dans les revues qui ont une certaine tenue, ne se publient que des résultats.
D'accord.
Alors, tous les résultats ne sont pas super intéressants. Il y a des résultats qui sont très intéressants, des résultats qui le sont moins, des résultats qui peut-être seront oubliés pendant au moins quelques temps. Les conjectures, c'est quelque chose qui est très délicat. Je dirais que peu de mathématiciens font des conjectures. En général, ils laissent plutôt leurs collègues faire des conjectures sur leurs propres travaux.
Ah.
Hein, c'est difficile dans un article de dire « je ne sais pas faire ça, je conjecture que c'est vrai
».
Parce qu'on s'expose à ce que quelqu'un d'un tout petit peu plus malin le fasse le lendemain et c'est pas très raisonnable. Donc je crois que les gens sont relativement prudents. On n'aime pas non plus trop parler de conjectures quand on a du mal à évaluer la difficulté réelle d'un problème. Il y a des problèmes dont on pouvait penser qu'ils étaient relativement simples, qui sont avérés extrêmement difficiles, voire qui ne sont toujours pas résolus. Et d'autres dont on pouvait penser qu'ils étaient relativement compliqués, je pourrais peut-être donner un exemple tout à l'heure, qui ont été résolus dans quelques semaines après.
Oui, trois coups de cuillère à peau, cela. Bon. Alors, évidemment, quand on regarde, et c'est pour ça que là encore c'est très intéressant, et que le statut entre les mathématiques et... prenons même la physique théorique, qui d'une certaine manière est la plus proche des mathématiques, par son appareil technique mathématique. En mathématiques, tout reste bon. Et vous le dites, Pierre Bérard, tout reste bon, c'est-à-dire des articles anciens, voire très anciens, peuvent d'un seul coup réanimer un développement, une question, un questionnement, un intérêt. Donc c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il faut, là encore, appuyer sur l'idée de conserver de façon pérenne le corpus mathématique, puisque, après tout, un petit article ou un grand article, mais de l'époque de Cauchy, par exemple, pourrait d'un seul coup voir son intérêt renouvelé.
Tout à fait. Puisque vous parliez de physique théorique, la grande différence, je pense, entre la physique théorique et les mathématiques, je pense qu'il y a deux différences. La première, c'est que le physicien, quelque part, n'est pas forcé à la démonstration.
Oui.
Hein, et quand on lit des articles de physique, les arguments ne sont pas toujours complètement, sont pas tout à fait complets, souvent pour un mathématicien. Mais le physicien, lui, a une autre contrainte. C'est qu'il fait une théorie qui est censée expliquer la réalité. Si la théorie donne des résultats qui ne sont pas vérifiés par l'expérience, quelque part, la théorie tombe à l'eau.
Oui.
Alors qu'un mathématicien qui crée une notion, bon, évidemment, il peut éventuellement créer une notion qui n'a pas beaucoup d'intérêt, ou dont on ne voit pas l'intérêt tout de suite. Mais cette notion, elle existe pour l'éternité, quelque part.
Oui, oui. Alors, on peut dire, là encore pour jargonner légèrement du point de vue épistémologique, que la physique théorique, voire la physique, s'intéresse, bien sûr, par ses questions et par ses résultats à un monde qui est un monde physique réalisé. Alors que l'entièreté des mathématiques, c'est une suite de concaténations tenues d'une main de fer par la logique et qui ne parle pas d'un monde réalisé, sinon à être évidemment réaliste, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire un ciel, un univers très particulier que l'homme lentement investigue pour comprendre les paysages de ce monde. C'est bien ça, Pierre Bérard, on peut dire ça.
On peut dire ça avec un phénomène qui est particulier, c'est que, vous savez, c'est un petit peu comme ces photos numériques qu'on voit apparaître sur un écran d'ordinateur, où on les voit d'abord un petit peu flou, puis le paysage peu à peu devient net. Et en mathématiques, c'est souvent comme ça. On commence par voir des exemples, et puis ça devient un petit peu plus net, on a des notions qui apparaissent, et puis un jour, on voit complètement le paysage. Et toutes ces notions que les gens avaient bien du mal à comprendre, tout d'un coup, elles deviennent complètement limpides, presque triviales, au sens où, pour un mathématicien, ça devient... Il les sent, il les voit, et c'est fini. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas profondes pour autant. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est important.
Alors, vous utilisez un terme qui est typiquement utilisé par, évidemment, les éléments radioactifs. Pour les éléments radioactifs, vous parlez à un moment, vous dites que la question du temps de vie d'un article s'apparente à, on peut la noter comme la demi-vie d'un article.
Oui, c'est ça.
La demi-vie, c'est le temps, évidemment, de la désintégration d'un élément radioactif.
Voilà, donc la demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié d'une substance radioactive disparaisse. Et donc, Pour faire la comparaison avec les mathématiques, on a fait des statistiques sur un corpus numérique assez volumineux, de l'ordre de 25 000 articles. Mm-hmm. Et on a fait des statistiques sur l'année de publication de l'article qu'on regarde, mm-hmm. et en regard les années de publication des items dans la bibliographie. Et on s'aperçoit que dans une bibliographie, plus de 50% des items font référence à des articles qui ont au moins 10 ans d'âge et 25% des articles qui ont au moins 20 ans d'âge. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire que la demi-vie, c'est entre 10 et 20 ans. Donc on considère que, par exemple, ce qui ne se passe pas du tout en biologie où très souvent on a tendance à mettre au panier les articles qui ont plus de 3 ans, voire plus de 6 mois, en mathématiques, c'est différent. Il faut un certain temps pour que les articles soient publiés, que les articles publiés soient cités.
Oui.
Et des fois, ce n'est que 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard qu'on voit tout l'intérêt d'un article. Des fois, simplement parce qu'il contenait un exemple et que tout d'un coup, cet exemple vient se mettre au sein d'une théorie où on s'aperçoit qu'il joue un rôle fondamental.
Oui. Ce qui confirme encore donc, l'adjectif utilisé par vous, Pierre Bérard, donc de la nécessité d'une conservation pérenne.
Tout à fait.
Eh oui. Alors, on pourrait évidemment trouver des exemples célèbres. Alors, publication, très bien, mais vous soulevez aussi, vous montrez plutôt, vous pointez l'intérêt des manuels.
Tout à fait. Parce que, quelque part, les mathématiques se construisent brique par brique. Mmh. Et il y a un moment où on vous donne une collection de briques et quelque part, il faut refaire la maison. Et les manuels servent à ça. Je dirais les manuels et les articles de synthèse. Très souvent, ils apparaissent à un moment où il y a eu une avancée importante. C'est un des rôles, par exemple, du séminaire Bourbaki,
oui.
de faire des exposés de synthèse à des spécialistes d'un sujet, à un moment où il y a eu une avancée marquante.
On peut rappeler d'un mot ce qu'est donc ce séminaire Bourbaki, qui est un pseudonyme, évidemment. Monsieur Bourbaki n'existe pas. C'est à l'initiative d'un certain nombre de mathématiciens français qui ont décidé d'un seul coup faire un grand coup d'ordre, de mise en ordre des mathématiques, qui continuent d'ailleurs, et où se sont retrouvés, entre autres, des gens comme Chevalet, enfin de très très grands matheux, qui ont fait ça. Alors donc, je vous laisse poursuivre, Pierre Bérard.
Donc traditionnellement, deux fois par an, il y a un week-end mathématique à Paris, qui s'appelle le séminaire Bourbaki, où il y a un certain nombre d'exposés qui sont faits par d'éminents mathématiciens, français ou étrangers, pour faire un petit peu le point sur une avancée importante dans un domaine, et donc sur le domaine en question. Et ces articles donnent lieu à une publication mmh. qui est extrêmement prisée, justement, parce que ça permet de savoir où en est une discipline à un moment donné.
Alors, autre mouvement, et là encore, c'est intéressant de le comprendre, il y a dans l'histoire des mathématiques, dans leur développement, des moments clés. Alors, je prendrais par exemple le travail, un exemple ancien, mais qui a été extrêmement séminal, qui est bien sûr celui de cet élève célébrissime de l'école normale qui est mort en duel, en disant « je n'ai pas la place de continuer », je vous laisserai dire son nom.
Galois.
Voilà. Et qui d'un seul coup part donc son travail sur les équations de différents degrés, puis aussi l'introduction de la notion de groupe, va unifier d'une certaine manière des sous-ensembles des mathématiques qui étaient séparés comme des branches dites spéciales. D'ailleurs, on disait mathématiques, on définissait le domaine et on disait c'est des mathématiques spéciales. Eh bien non, elles tombent d'un seul coup sous la généralité. C'est bien ça, un des mouvements. On pourrait dire d'ailleurs la même chose du grand travail de Grothendieck, puisque certains, à ce même micro, ont affirmé qu'il y avait les mathématiques avant Grothendieck et qu'il y a maintenant les mathématiques après son travail.
Tout à fait. Il y a eu des révolutions qui ont été le fait d'individus particulièrement doués, pas forcément d'ailleurs avec une publication scientifique extrêmement importante, comme c'est le cas pour Galois,
oui.
mais qui ont réellement changé complètement notre vision des problèmes. ce qui était, j'ai envie de dire, du bricolage, sans que ce soit péjoratif, avant Galois, est devenu la théorie de Galois.
Oui.
Et donc une compréhension de ce que sont les équations.
Alors que le pauvre Galois, on a perdu ses manuscrits, on les a égarés, il a fallu attendre un certain temps pour qu'ils soient mis en pleine lumière et qu'on voit évidemment le génie absolument lumineux de ce garçon qui était aussi bravache et insolent.
Tout à fait, qui a aussi vécu dans une époque un petit peu particulière.
Politiquement, oui. Politiquement. Alors, vous dites que... est-ce qu'on peut caractériser des articles stricto sensu qui ont eu ce rôle, d'un seul coup, de faire une brèche?
Très certainement. Vous parliez tout à l'heure de Grothendieck. Ces articles... éléments de géométrie algébrique ont fait une brèche. Et je dois dire, quand ils ont été numérisés par le programme NUMDAM, dont on parlera sans doute tout à l'heure, on a littéralement fait exploser le serveur, parce que dès que les gens ont su que les lecture notes étaient disponibles en accès libre sur Internet, tout le monde s'est précipité pour les regarder.
Suite de ce rendez-vous de Continent Science, toujours bien sûr sur France Culture, nous avons à l'instant passé le mi-temps de ce rendez-vous et toujours bien sûr en compagnie de Pierre Bérard pour parler des publications mathématiques. Alors vous citez un exemple sur lequel vous avez travaillé aussi, que je trouve, en tout cas sous sa forme de question intéressante. Je connaissais bien, l'article de vulgarisation de Jean-Pierre Bourguignon qui était sous forme interrogative. Qui était la suivante: peut-on entendre la forme d'un tambour? Question magnifique d'une certaine manière. Et puis, du fait de votre spécialité en mathématiques, sur les questions de courbure en particulier, vous vous êtes intéressé aussi à la même question d'une certaine façon, qui a donc trouvé un renouvellement et un grand intérêt. C'est une très très belle question qui mobilise beaucoup de mathématiques. Et à la réponse, peut-on entendre la forme d'un tambour? Pas dans tous les cas. C'est ce que vous dites.
Voilà, tout à fait. Alors, en fait, ce problème, on peut dire qu'il a été posé au début du siècle dernier. Il y a eu une conjecture d'un physicien.
Oui.
En fait, c'est pas un mathématicien, c'est un physicien.
Lorentz. Oui.
Peter Debye. Et ensuite, il y a eu un exposé, une conférence... faite par Lorentz à Göttingen. Donc, en octobre 1910, le physicien Lorentz avait été invité au séminaire de David Hilbert à Göttingen pour parler des questions anciennes et nouvelles de la physique.
Ah.
Et il a posé une question pendant ce séminaire. Et la question, c'est de savoir si la densité des fréquences propres d'une cavité électromagnétique est proportionnelle au volume. Alors, bon, les fréquences propres, il faut imaginer que ce sont les fréquences qui sont associées à ce qu'on appelle les modes propres de vibration, c'est-à-dire les modes pour lesquels la forme de l'onde est constante, c'est son amplitude simplement qui change dans le temps. Alors, on peut les voir, on pourrait dire qu'on peut les voir sur une corde de violon, mais ça, c'est un peu difficile. Mais on peut les voir d'une manière simple chez soi quand on a ces grands radiateurs avec des lames qui vont du sol au plafond. Parce qu'on peut pincer deux lames et lâcher tout d'un coup. Et là, on voit apparaître des ventres et des nœuds de vibration. Et ça correspond justement à ces fréquences propres.
Alors, on fera l'expérience alors.
Voilà, il faudra faire l'expérience.
Pierre
Bérard. Lorentz a posé cette question et Hilbert aurait dit que la question ne serait pas résolue de son vivant. Il se trouve que quelques mois plus tard, Hermann Weyl, en février 1911, a publié un article dans lequel il démontrait donc la conjecture, si on veut, démontrait les résultats dont Lorentz posait l'existence. Et c'est un article qui est étonnamment moderne, c'est-à-dire qu'à part le fait qu'il est écrit en allemand, il est extrêmement facile à lire et extrêmement clair. Et d'ailleurs, Hermann Weyl a publié plusieurs articles à la suite avec d'autres démonstrations de la même propriété. Alors la question, peut-on entendre la forme d'un tambour, elle est venue un petit peu plus tard. Elle est venue dans les années 60. C'est Mark Katz, qui est un mathématicien américain d'origine ukrainienne, qui l'a posé. Et donc Mark Katz voulait aller un petit peu plus loin. Et en fait, il avait démontré la chose suivante. Si vous imaginez que votre tambour ressemble à un lac, qui a une rive et puis dans lequel il y a éventuellement quelques îles, ce que Mark Katz a démontré, c'est qu'un tambour comme ça, si on connaît l'ensemble de ses fréquences propres, on peut déterminer l'air du lac, sa superficie, on peut déterminer la longueur des rives et on peut déterminer le nombre d'îles.
Belle chose, hein ?
Voilà. Et donc, assez naturellement, la question, ça a été de dire, mais est-ce que finalement, on ne peut pas tout déterminer ? Donc, mis en langage mathématique, ça veut dire, est-ce qu'on peut déterminer le lac à isométrie près ? Ça veut dire qu'on peut se permettre, évidemment, de le translater ou de le tourner, mais des opérations qui ne changent pas la forme. Et donc, cette question était posée en 1963 et elle est restée sans réponse jusqu'en 1991. Et en 1991, trois collègues américains, Caroline Gordon, David Webb et Scott Volpert, ont donné des exemples de tambours qui n'ont pas la même forme, mais qui ont les mêmes fréquences fondamentales. Et pour cela, ils ont utilisé une technique qui avait été introduite par un collègue japonais dans les années 85, et puis une petite interprétation et un raffinement que j'avais trouvé, et avec ça, ils ont été capables de donner une réponse négative. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réponse est négative, certes, mais pas complètement satisfaisante, parce que les domaines en question, les tambours en question, sont des tambours avec des coins. Et on aimerait bien avoir des tambours qui sont arrondis, qui ne sont pas avec des coins. Et la question est toujours ouverte pour des tambours qui n'ont pas de coins.
C'est vrai que vous, mathématicien, vous faites des choses étranges. À ce même micro, je ne peux pas m'empêcher, quand vous dites ça, Pierre Bérard, de penser à une émission avec Gromov, le grand mathématicien d'origine russe, qui est à l'IHES et qui nous a fait réfléchir sur des billards convexes, concaves, avec des billards absolument abominables pour comprendre les trajectoires.
Si vous permettez, en fait, il y a un point que je voulais rajouter. Ce qui est intéressant dans la résolution de ce problème, c'est que c'est un problème, disons, de géométrie et d'analyse, et qu'en fait, on a eu besoin, pour le résoudre, d'utiliser d'outils qui venaient d'autres domaines des mathématiques, de théorie des nombres, de théorie des groupes, voire de combinatoires. Et qu'une fois qu'on a compris le mécanisme, on est capable d'en donner une démonstration complètement élémentaire.
Oui, c'est ça qui est fascinant, d'ailleurs, sur cette illustration, on le voit bien, et avec ce que vous venez de dire, c'est que, évidemment, là encore, tout concourt en mathématiques, c'est-à-dire des domaines où il y a des mathématiciens qui sont plus tournés ou spécialisés en théorie des nombres, en combinatoire, ainsi de suite, mais d'un seul coup, pof, tout peut concourir et aider à la chose. Je vous propose, parce que le temps court, comme chaque fois, de passer à cette application manifeste et très importante des mathématiques à beaucoup de domaines. Je pense spontanément comme ça, par exemple, quand d'un seul coup il y a eu en mécanique quantique des tableaux de nombres, il fallait donc organiser ça avec les propriétés de certains éléments microscopiques. Je pense aussi à cette notion absolument féconde en théorie des champs, On parle de théorie SU quelconque, c'est-à-dire des opérations et aussi bien de géométrie à multiples dimensions, avec des propriétés de symétrie. Donc on voit bien comment les mathématiques sont un outil. On pourrait prendre évidemment aujourd'hui en théorie des cordes, même si tout ça est encore très conjectural en physique, hein, donc nouveau modèle. Donc on voit bien l'apport absolument constant des mathématiques, apport qui peut être d'ailleurs aller et retour entre physiciens, théoriciens et mathématiciens.
Tout à fait, tout à fait. Par exemple, pour donner un nom, il y a cet objet que les physiciens appellent la fonction de Dirac, hein, qui est théoriquement une fonction qui est nulle partout, sauf en un point, mais dont l'intégrale vaut 1, donc une espèce d'impulsion initiale que les physiciens ont maniée pendant un certain nombre d'années, avant que Laurent Schwartz ne crée la théorie des distributions, dans laquelle ben voilà, tout devient clair. Tout devient clair parce qu'on a les bonnes notions, parce qu'on a le bon point de vue, qui est un point de vue un petit peu différent de ce qu'on faisait avant.
Alors je vous propose maintenant, pour nous acheminer vers malheureusement la conclusion de ce rendez-vous avec vous, Pierre Bérard, de revenir sur cette question qui est donc de l'importance grandissante du corpus mathématique sous une forme informatique. Crainte, puisque de toute façon vous dites qu'il y a un premier mot d'ordre, c'est qu'il faut que ce soit validé. Les choses doivent être validées. Et en plus, il faut être absolument certain que l'écriture est bonne pour valider. Ne serait-ce que l'écriture, c'est-à-dire la suite des signes qui sont les signes du langage mathématique. Alors, quelles sont les inquiétudes vis-à-vis du passage à l'informatique, d'après vous, Pierre Bérard ?
Alors, d'abord, c'est incontournable, quelque part, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non...
Il faudra y passer.
De toute façon, on y est déjà passé.
Oui,
on est tous très contents de pouvoir jouer sur son moteur de recherche favori et de trouver des articles en ligne, etc. Donc la question n'est pas est-on pour ou contre le passage à l'informatique. La question, c'est plutôt la question de l'archivage et de l'accès pérenne. Donc les revues donc, ont joué le rôle de validation scientifique. Ensuite, ces revues, elles ont été archivées dans des bibliothèques qui ont permis l'accès à tout le monde, puisque ce sont des bibliothèques publiques, quelque part. Aujourd'hui, on a une situation qui est un peu différente parce que, disons, l'aspect publication et l'aspect publication au sens publication dans une revue après validation par les pairs et l'aspect mise à disposition, disons, sur la toile, par exemple, se sont complètement décorrélés parce que n'importe qui, aujourd'hui, peut mettre un article sur sa page. Et l'article devient public.
Bien sûr.
Après, cet article est-il validé par les pairs ? Est-il pertinent ? Évidemment, le spécialiste, lui, sera peut-être capable d'aller lire l'article et de dire c'est intéressant ou ce n'est pas intéressant. Mais en particulier pour les applications des mathématiques, pour les gens qui ne sont pas des mathématiciens professionnels et qui ont besoin des résultats, ils ont besoin de savoir si les résultats sont corrects ou non.
Oui, validés, donc.
Et validés. Mmh. Et la difficulté qu'on voit apparaître, alors qu'on essaie de, à laquelle on essaie de remédier, bien entendu, c'est par exemple la date. Autrefois, ben, on envoyait un article dans une revue, l'article était accepté, très bien. Il y avait un tampon de la revue qui disait c'est
reçu à telle date.
Reçu à telle date,
et c'était publié, fini. Bon.
Aujourd'hui, on n'est pas toujours sûr que les documents qui sont sur le web sont des documents qui n'ont pas été modifiés, qui c'est pas une version postérieure, etc. D'où la nécessité d'avoir des processus de validation, de tamponnage qui permettent de dater les articles. C'est ce que font par exemple les grands répertoires d'articles comme Hyper Article en ligne en France ou Archive aux États-Unis, sur lesquels chaque fois qu'on met un article apparaît la date. Et si c'est une deuxième version, ben il est dit, il y avait une première version qui a été publiée à telle date. Mmh. Ça permet au lecteur de confronter ces différentes versions. Mais il reste que ce n'est pas complètement clair la manière dont tout ça va se stabiliser. Parce que là, disons, Archive, ça remonte au début des années 90, donc c'était hier. Mais nous, ce qui nous intéresse, C'est des documents qui vont rester pendant des siècles, en tout cas des décennies. Et donc, il est important d'y faire attention. Alors, le deuxième aspect, qui est un aspect qui est plutôt le problème du modèle économique. Parce que les éditeurs ont été extrêmement utiles, si on pense à un éditeur en France comme Gauthier Villars, qui a joué un rôle très important dans le développement des mathématiques, des sciences en général en France. Aujourd'hui, les éditeurs, comme beaucoup d'autres, sont soumis à la mondialisation,
à la rentabilité,
à la rentabilité, aux demandes de leurs actionnaires qui en veulent toujours un petit peu plus. Et donc aujourd'hui, on est passé d'un mode où les bibliothèques archivaient et garantissaient l'accès sur le très long terme, même si de temps en temps les bibliothèques peuvent brûler, peuvent être inondées, mais il n'empêche que globalement au niveau international, les bibliothèques gardaient ce patrimoine. Ce patrimoine, aujourd'hui, il est souvent entre les mains d'entreprises dont on ne connaît pas forcément l'avenir et qui pourraient très bien, pour des raisons de rentabilité, disparaître dans les années à venir. Parce que dans le cadre des licences électroniques, les documents restent chez les éditeurs. Alors, il y a eu des discussions dans les contrats, il est prévu que les éditeurs fournissent des CD-ROM, etc. Mais tout ça, ça reste extrêmement théorique. Si vous retrouvez tout d'un coup avec 500 ou 1000 CD-ROM sur lesquels il y a plusieurs milliers d'articles, reconstituer quelque part une bibliothèque ou une revue à partir de ça, en dehors même des aspects purement légaux, c'est extrêmement difficile. Oui. Et donc, c'est un petit peu ça le souci de se donner les moyens dans le monde numérique de préserver ce patrimoine. Parce que, d'un autre côté, le monde numérique nous offre des possibilités qu'on n'avait évidemment pas dans le papier, qui sont la possibilité de se promener d'un article à l'autre par le biais des liens d'une bibliographie vers un plein texte. Et donc, on n'a plus besoin d'aller chercher un article qui n'est peut-être pas les bibliothèques. On clique et si on a la chance d'avoir accès au document, ben on l'a immédiatement en ligne sur son ordinateur.
Oui. Vous avez prononcé le mot, en tout cas, Pierre Bérard. Patrimoine de l'humanité, c'est un des plus anciens, on peut dire. Hein, les mathématiques, puisque l'homme a commencé à compter très tôt, même si c'était de façon tout à fait empirique, à mesurer très tôt. Il y a une dernière question que je voudrais vous poser, qui était, elle est un peu en écho à un propos de Michel Salanskis qui est venu à ce micro et qui disait que, et qui reprend d'ailleurs ce que vous disiez au tout début, c'est que le mathématicien lit et doit lire et que la lecture mathématique, c'est quelque chose de long. Si on arrive, pour certains articles, à lire 3 lignes, par jour, c'est déjà pas mal.
Oui, tout à fait, à tel point que pour les articles, tout à l'heure, vous mentionniez Gromov. Gromov a écrit un certain nombre de théorèmes fondamentaux dont la lecture était tout sauf facile et qui ont fait qu'un certain nombre de groupes de travail de par le monde se sont mis à l'œuvre, ont essayé de comprendre dans ses moindres détails ce qu'il avait voulu dire, ce qu'il avait voulu faire. Et donc, c'est la manière dont fonctionnent les mathématiciens, effectivement. Un article, disons, relativement simple, on le lit, je dirais pas comme un roman, mais on le lit. Et des fois, il faut effectivement passer plusieurs semaines seul ou en groupe pour arriver à décortiquer un article, voire à apporter des détails qui ne sont pas fournis complètement explicitement dans l'article.
Et quand vous êtes dans cette position, avec un article difficile, vous êtes dans la joie, Pierre Bérard ? Bon, dans une volonté tendue, bien évidemment, c'est votre passion en plus.
Oui, c'est-à-dire que la question, c'est toujours, est-ce qu'on pense que le résultat est intéressant ?
Oui, est-ce que ça n'est pas trivial ?
Voilà, quand on a un résultat qui paraît extrêmement intéressant, on a évidemment envie de comprendre le détail de la démonstration. Il faut que le résultat vous parle, sinon on n'a pas très envie de se fatiguer.
Écoutez, il me reste à vous souhaiter beaucoup de résultats enthousiasmants, Pierre Bérard. Et merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Ben voilà, toujours en direct de France Culture, nous avons entamé le quatrième quart d'heure, pardon, de ce rendez-vous de Continent Science. Et nous ouvrons maintenant le célèbre espace critique. Bonjour Raphaël Briot.
Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde.
Alors de quoi allez-vous nous parler? Un livre, une brève? Qu'est-ce qui est l'objet de votre choix aujourd'hui?
Bien plusieurs choses aujourd'hui. Je vous propose une petite visite et plusieurs ouvrages. Donc je commence par la visite, puisque la maison Dérolle, que vous connaissez sûrement, a rouvert ses portes fin septembre. Voilà, enfin. La maison Dérolle, pour ceux qui ne la connaissent pas, est installée depuis 1888 dans un hôtel particulier rue du Bac à Paris.
Oui.
Et c'est un magnifique cabinet de curiosités où on peut croiser des animaux naturalisés, des tigres, des poules, un éléphant, un zèbre, etc. Des collections d'insectes, de coquillages, des éclatés d'insectes ou de crustacés, du matériel pédagogique pour l'enseignement des sciences naturelles, et notamment ces fameuses planches qui ornaient les murs de nos classes, puisque dans les années 1870, Dérolle était le fournisseur officiel de l'instruction publique. Et d'ailleurs, à ce propos, ces planches se sont mises au goût du jour, puisqu'aujourd'hui, leur thème, c'est la raréfaction de l'eau, la protection de la biodiversité, le réchauffement climatique, etc. Donc voilà, Dérolle renaît de ses cendres. Et oui, parce que ce temple des sciences a été ravagé par un incendie le 1er février 2008.
Oui.
Le feu a emporté la majeure partie des animaux, du matériel et du mobilier historique. Et après plus d'un siècle d'existence, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais voilà, les artistes ont toujours fréquenté ce lieu très iconoclaste et particulier. André Breton venait s'imprégner de son atmosphère surréaliste. Salvador Dali disait qu'il s'y approvisionnait en poudre de cornes de rhinocéros afin de décupler ses talents. Allez savoir lesquels. Et après l'incendie, de nombreux artistes se sont donc mobilisés pour des rôles. Et leurs œuvres ont fait l'objet d'une vente aux enchères qui a rapporté pas mal d'argent. Et la maison a ainsi pu être reconstruite à l'identique. Et aujourd'hui, en tout cas ce week-end, j'y suis passée, elle débordait de visiteurs, débordait d'enfants surtout, et elle débordait de vie.
Et oui, je peux dire simplement l'émotion un soir d'hiver de voir dans la vitrine de chez Dérolle, alors je le dis sans jouer au malin, mais un chlamydophore tronqué. C'était saisissant. Bah, c'est un tatou, mais qui, quand on dit tronqué, a le bas de son postérieur qui est vraiment à angle droit avec son dos. Donc on ne peut pas le rater. Et il y avait un chlamydophore tronqué chez Dérolle. Oh là là! Allons, je vous laisse continuer.
Et alors en ce moment, on peut aussi voir quelques photos de l'exposition du photographe Laurent Baucher jusqu'au 1er décembre et qui est intitulée 1000 degrés, puisque c'est la température atteinte au cœur du brasier, donc en février 2008, où on voit des magnifiques clichés en noir et blanc d'animaux brûlés. Alors c'était des animaux naturalisés, bien sûr, donc ils n'ont pas souffert. C'est d'ailleurs ce que précisent les parents aux enfants qui regardent les clichés. Non, non, ils n'ont pas souffert. Mais c'est très étonnant, puisqu'on a l'impression de voir des animaux mi-mort, mi-vif, finalement, sur ces clichés. Et aussi une pointe d'humour, puisque il y a par exemple une photographie où on voit un tigre en train de se promener dans les pattes des pompiers alors qu'ils étaient en activité. Donc des images très très étonnantes. Voilà, je vous invite donc à faire...
Surréaliste,
surréaliste, oui. Vraiment très belle. Je vous invite donc à faire un petit tour du côté de la maison Dérolle, qui est donc une boutique, mais aussi un cabinet de curiosité ouvert à tous et qui est situé au 46 rue du Bac à Paris.
Oui, ben nous irons. Nous irons.
Alors, autre chose, des lectures, mais aussi des documentaires à visionner une exposition. Alors, c'est autour des insectes. Est-ce que vous connaissez, Stéphane, les membracides?
Ah oui, c'est étrange, ça, le membracide.
Voilà, alors, ce sont des insectes...
C'est une drôle de tronche, si je puis me permettre.
Que l'on surnomme les mini-monstres. La science sait peu de choses sur ces drôles d'insectes, puisqu'il n'existe que 3 espèces en Europe et seulement 200 aux États-Unis. Je dis seulement 200 parce qu'il en existe normalement des milliers, mais la plupart vivent en forêt tropicale et notamment en Amazonie. Et c'est justement là-bas qu'une équipe de scientifiques est allée les observer, les photographier, les filmer,
belles
mais
couleurs,
aussi
hein, d'ailleurs.
Les écouter. Il y a des magnifiques couleurs.
Oui.
Alors justement, puisque vous les décrivez, les membracides font 2 à 25 mm, donc ce sont des insectes visibles à l'œil nu, mais enfin, il faut vraiment les repérer, de la tête d'épingle jusqu'à la noix. Et ils se caractérisent par leur pronotum. C'est un organe particulier qui couvre leur tête et se prolonge vers l'arrière sur leur corps et qui prend des formes très, très bizarroïdes. Alors, sur la couverture de l'ouvrage, on peut en voir un. Vous le verrez sûrement sur le site internet de l'émission. Parfois, par exemple, ça ressemble à une espèce de couronne, de petites boules noires, etc. Et on ne sait toujours pas à quoi peuvent bien servir ce pronotum, mais cela donne des animaux qui sont absolument magnifiques, vraiment très, très beaux. Donc, je vous invite à avoir un ouvrage qui va sortir cette semaine et qui s'appelle Mini Monstre et qui est édité aux éditions alors Jean Discoulio et Arte Éditions. En toute honnêteté, le texte est assez insipide, la mise en page est assez décevante, excusez-moi de le dire, mais les photos sont très belles, les photos de Patrick Landman et d'autres de Thierry Béraud qui permettent, grâce à un procédé de grossissement par microscope électronique, de vraiment se rendre compte que ces animaux ressemblent à des mini-monstres.
Bon.
Voilà. Alors, on découvre là toutes leurs formes bizarroïdes. Il y a également une exposition sur ces animaux qui va débuter cette semaine au Muséum National d'Histoire Naturelle et deux documentaires de 52 minutes qui seront diffusés sur Arte en décembre. Je continue, je n'ai toujours pas fini, toujours.
Oui, je vois une petite bête là encore. Hein.
La petite liaison, c'est Thierry Béraud qui a utilisé ce même procédé donc de grossissement par microscope électronique pour prendre tout un tas de sales bestioles en photo. Je cite acariens, tiques, vrillettes, termites, poux, puces, moustiques, araignées, fourmis, cloportes, vers, antrennes, punaises, cafards, etc. etc. pour faire un magnifique ouvrage qui s'appelle Les envahisseurs invisibles aux éditions Place des Victoires. Alors là, pour le coup, des textes informatifs et intelligents de Martin Monestier et donc ces splendides photos de Thierry Béraud. En couverture, là aussi, j'espère que vous le verrez sur le site internet de l'émission. Est-ce que vous devinez de quoi il s'agit?
Ouais, je sais ce que Stéphane. C'est abominable. C'est sur un poil, c'est un morpion.
Exactement, bravo. En couverture, un magnifique morpion accroché à son poil. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un morpion, je rappelle qu'on a surnommé pendant des siècles cet insecte le pou de pubis, à distinguer bien sûr du pou de tête et du pou du corps. Heureusement, le texte de Martin Monestier est toujours là pour nous rassurer. Permettez-moi, puisque j'ai encore quelques minutes de lire.
Oui, pas de cri d'orfraie, c'est la nature, allez.
De lire alors. Juste quelques petites secondes. Alors, chez les individus particulièrement sales, les morpions peuvent pulluler. Dans ce cas, il n'est pas rare qu'ils quittent en nombre la zone génitale pour gagner le haut des cuisses, les aisselles, les paupières et quelquefois aussi la pilosité thoracique où ils peuvent se retrouver en compétition avec les poux de corps. Voilà, je ne citerai pas tout, mais il y a des passages absolument à croquer. Voilà, je vous conseille donc ce livre qui s'accompagne aussi d'une série documentaire qui paraîtra cette fois-ci sur France 5 à partir d'octobre, du 27 octobre à 15h30. Donc c'est Les envahisseurs invisibles.
Merci, insolente Raphaël Briot. Mais bien sûr, c'était Continent Science. Merci, merci et merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours et encore les bienvenues. Martin Delafosse, Catherine Denet, Dominique Briffaut et Stéphane Delis-Georges. Si vous voulez nous écrire ou si vous voulez réécouter cette émission, n'importe où, n'importe quand, bien sûr, vous vous reportez au site internet franceculture.com, émission Continent Science. Continent Science est aussi balado-diffusé, comme disent nos amis canadiens. Vous avez donc la possibilité de nous enregistrer sur votre baladeur pour une écoute d'une plus grande liberté encore. Il me reste maintenant, tout simplement, à vous souhaiter un bel après-midi sur France Culture.